affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs de Canal Académie, bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer une somme de près de 800 pages consacrée à une ville, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la ville. Je veux parler de Rome. L'ouvrage qui va nous servir de fil conducteur s'intitule tout simplement « Urbs ». Il est sous-titré « Histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste ». Il est édité chez Perrin. C'est en soi un nouveau monument romain qui comporte à peu près tout le savoir disponible sur la ville éternelle, ou du moins tout le savoir dont peut disposer l'honnête homme qui ne peut pas consacrer sa vie à l'exploration des archives. Cet ouvrage monumental est signé d'Alexandre Grandazzi, qui est ancien élève de l'École française de Rome, professeur de littérature latine et civilisation romaine à la faculté des lettres de Sorbonne Université, et surtout récent lauréat du prix Chateaubriand décerné donc par l'Institut de France. Et c'est justement lui que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un ancien élève de Pierre Grimal. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez découvert Rome, à titre personnel ?
À titre personnel, je l'ai découvert en famille il y a quelques années. Et j'étais tout de suite, je ne savais pas du tout ce que j'allais devenir, bien entendu. Je devais être au lycée. Mais j'ai tout de suite été séduit, fasciné par cette superposition des époques et puis par ces espèces de grands murs de travertin, de briques qui, me disait-on, étaient des témoins directs de l'Antiquité. Ça m'avait impressionné.
Et comment est-ce que vous êtes venu ensuite?
Je ne savais pas du tout que j'allais devenir.
Que vous avez fier, ouais.
Non, à l'époque j'hésitais. Enfin, à l'époque j'avais comme ambition de passer et de réussir mon baccalauréat, qui était encore une perspective lointaine. Ensuite, je suis entré en classe préparatoire. Je suis entré à l'école que je préparais, mais je n'avais pas encore une idée très très précise de ce que je voulais faire. Je voulais devenir chercheur à partir de 20 à 21 ans, c'est ce que je savais. Mais j'hésitais encore entre plusieurs voies. J'avais même été tenté par la... Enfin, je raconte ma vie, c'est pas très intéressant,
la
musique.
C'est pour ça que vous avez...
J'ai fait beaucoup de musique à ce moment-là. Du piano. Et puis finalement, j'hésitais in fine entre la philosophie, l'histoire et le latin. Et j'ai rencontré Pierre Grimal.
En quelle année ?
Ça devait être donc dans les années 77, 78. En réalité, j'ai été, vous savez, comme on fait quand on est étudiant et qu'on cherche un directeur de ce qu'on appelle maintenant un master, eh bien, on est en licence, on va au cours des uns et des autres, et puis on se fait une idée. J'avais quand même décidé de préparer une licence de lettres classiques, et aussi une licence d'histoire d'ailleurs. J'ai été au cours de Grimal, et là j'ai été séduit par son approche tout à fait... qui était neuve et qui, d'une certaine manière, l'est encore, c'est-à-dire une approche pluridisciplinaire. Il n'employait pas le mot, mais c'est ce qu'il faisait. Et puis, il y a aussi la personnalité. La personnalité de Grimal était rayonnante, impérieuse, rayonnante et en même temps très chaleureuse. Et voilà, travailler sous la direction d'un tel maître a été
inspirant.
Comment dirais-je, voilà, une...
Vous l'avez abordé,
un projet.
Alors,
bah oui, j'ai été le voir en lui disant que j'aimerais un sujet sur Rome, bien sûr, puisque je venais le voir pour un sujet de maîtrise, c'est ce qu'on disait à l'époque, et je lui ai demandé un sujet, je me souviens, je lui ai demandé un sujet qui soit novateur, enfin je ne sais plus comment j'avais formulé ça, mais un sujet qui soit sur un domaine où se faisaient les découvertes ou les espoirs de découvertes.
C'est la vraie recherche, en fait.
Hein. Et oui. Voilà.
Un domaine à défricher.
Voilà, mais il pouvait me dire n'importe quoi, je l'aurais suivi. Là, il m'a dit, c'est les origines de Rome, il faut travailler dans ce domaine, parce que là, vraiment, il y a beaucoup de découvertes, beaucoup de recherches et beaucoup de perspectives. Et donc, il m'a orienté vers une recherche qui était à la fois sur Virgile et sur la Rome des origines. C'était un sujet un peu compliqué, avec lequel je me suis débattu pendant mon année de maîtrise, mais qui m'a familiarisé, qui m'a permis de découvrir, et avec une perspective de me familiariser peu à peu, d'une part le texte de l'Énéide, qui est quand même une œuvre majeure, et que je connaissais comme on la connaît à la sortie des classes préparatoires, c'est-à-dire pas très bien finalement, et d'autre part avec les découvertes et les recherches sur la Rome des origines, qui à l'époque se distinguait encore mal de l'étruscologie.
D'accord. Combien d'années avez-vous consacré à ce champ ?
Oh, une
maîtrise et doctorat, je suppose.
Ah, la maîtrise, c'est un an.
Oui.
Ensuite, il y a le doctorat. J'ai dû mettre quelques années. Enfin, le doctorat, à l'époque, c'était pas 3 ans, c'était 4. J'ai dû le soutenir. J'ai dû soutenir mon doctorat au milieu des années 80-90. Et puis ensuite, j'ai décidé de continuer en thèse d'État, ce qui était déjà un choix un peu singulier, puisque la thèse d'État commençait à disparaître. On savait déjà
c'est
que...
C'est ce qu'on appelait le grand doctorat. Enfin, c'est...
Voilà. Et donc moi, j'ai décidé de faire une thèse d'État et pas seulement d'accumuler les articles et de venir à un certain moment pour réclamer une habilitation à diriger des recherches.
En là, réalité, c'est plutôt 15 ans. Alors.
En réalité, j'ai fait les deux, puisque j'ai fait aussi, bien entendu... des articles au fil des mois, au fil des ans, mais j'ai décidé de faire une thèse d'État que j'ai consacrée à la légende et aux réalités qui se cachent derrière le nom d'Alba Longa. Et ma thèse d'État, qui a été publiée à l'École française de Rome, dans la bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, fascicule, comme on dit, ça doit être 336, en 2 volumes, qui doit dépasser les 1000 pages, et s'appelle Alba Longa, histoire d'une légende.
D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu aux auditeurs qui nous écoutent ce que ça signifie ?
Oui, alors je fais toujours rire les étudiants quand je leur dis que j'ai consacré finalement 15 ans et peut-être 20 ans de ma vie à démontrer, à parler d'Alba Longa pour démontrer que c'était une ville qui n'existait pas. C'est un peu le résumé, vous voyez.
D'accord.
Et donc j'ai étudié, vous voyez, ça vous fait rire aussi, mais vous êtes proche de l'âge. Voilà. L'idée, c'est que j'ai mis en lumière l'existence de ce qu'on appelle une étiologie, c'est-à-dire que la légende, le mythe romain des origines a présenté comme une grande ville située quelque part sur les monts Albains. On dit toujours Castel Gandolfo, mais c'est faux, c'est sur le Monte Cavo lui-même, le mont qui est en face. Les anciens ont imaginé une ville, une grande ville même, là où en réalité ils célébraient chaque année, à peu près vers le printemps, une fête religieuse qu'ils appelaient les féries latines, les fêtes latines. Et j'ai été amené à montrer que l'idée d'une ville d'Albe, c'est l'étiologie qui explique l'existence de cette cérémonie religieuse que, du coup, j'ai étudié aussi. J'ai étudié aussi ce qui n'avait curieusement jamais été fait, alors qu'il s'est presque jamais été fait. Il y avait une dissertation en latin de 1860 à peu près, mais petite. Et c'est une fête religieuse pour laquelle on a plus de 300 témoignages et qui a été célébrée jusqu'à la fin de l'Antiquité. Elle remonte à l'âge du bronze finissant, à mon avis, et je ne suis pas le seul à le penser, et elle va jusqu'à la fin de l'Antiquité. On voit même... avant la bataille de la rivière froide, les gouvernants romains se souciaient encore de la célébrer avant d'aller se faire battre par Théodose, je crois. Donc c'est vraiment une fête très importante qui n'avait jamais été étudiée comme telle, et l'étude s'en trouve dans le deuxième de mes volumes sur Alba Longa.
D'accord. Alors vous avez donc consacré une somme d'articles scientifiques au sujet, mais comment vous est venue l'idée de ce livre qui, lui, est l'histoire de Rome mise à la portée, on va dire, de l'honnête homme, quoi.
Parce que quand vous êtes... c'est la conjonction, je dirais, de trois...
Vous évoquez d'ailleurs, pardonnez-moi, oui. une masse quasiment infinie de documentation sur, oui. Sur Rome. Oui. Ça a l'air d'être quelque chose de...
Ah oui, oui, c'est ce que... D'ailleurs, c'est ce qui m'a...
Vie, quoi.
Oui, c'est ce qui... Ah bah oui, c'est ce qui m'a... Mais c'est le propre d'un livre, vous savez, la vie humaine est courte. L'horizon de chacun est très limité, mais finalement, grâce au livre et grâce à l'érudition et à son caractère cumulatif, vous accroissez votre vie ou vous donnez aux autres la possibilité de la croître.
C'est
un peu... Voilà. Alors, toujours est-il que ce qui m'a amené à l'idée d'écrire un livre sur l'histoire même de Rome, je dirais que c'est la conjonction de trois ou quatre circonstances. La première, c'est que je suis arrivé, vous mentionniez tout à l'heure l'école française, je suis arrivé à l'école française à un moment où, pour faire simple, tous les monuments de Rome étaient couverts d'échafaudages. Parce qu'on s'était rendu compte, 2-3 ans auparavant, qu'il y avait une campagne de presse, que le marbre de monuments aussi connu que la colonne de Phocas, que l'arc de Septime Sévère, que la colonne Trajane, sous l'effet de la pollution, et il y avait beaucoup de voitures dans les centres des villes européennes
dans les années 80,
ça circulait. Hein. Et sous l'effet de la pollution atmosphérique et oxyde de carbone, etc., le marbre se transformait en plâtre et donc les monuments, les ruines tombaient en ruines. Et c'était présenté comme une situation catastrophique et urgente. Et il y a eu véritablement un mouvement international, une prise de conscience, et le gouvernement italien, on dit toujours que le gouvernement italien sont faibles, et en fait, je ne connais aucun autre gouvernement qui était capable de dégager aussi rapidement, aussi efficacement et en aussi grande quantité les crédits pour une action culturelle de telle ampleur, d'une ampleur comme celle-là. Donc à partir de 83-84, tout le centre de Rome, les monuments de Rome, se sont couverts d'échafaudages pour restaurer, réparer. Et puis parallèlement, les Italiens ont commencé à interdire le centre de Rome, notamment ce qu'ils appellent l'area archeologica centrale, à la circulation automobile. Donc d'abord, j'arrive, je vois ça. Ça suscite quand même une curiosité. La deuxième raison, c'est que j'étais déjà, maintenant évidemment je le suis plus, mais j'étais déjà conscient et préoccupé de la faille, de la béance, de la distance qui se crée, qui à mon avis s'accroît, hélas, entre, je dirais, la recherche spécialisée et la culture générale. J'ai toujours eu le souci de faire un métier qui me permette de me rendre utile à mes concitoyens et à mes étudiants, bien sûr, auxquels je pense en priorité, mais pas seulement. J'ai commencé mes études avec en choisissant, j'avais fait un bac, comment ça s'appelle, à l'époque on appelait ça A1, latin grec, plus une langue vivante, et déjà nombre de professeurs m'avaient dit mais pourquoi tu fais pas tu vas pas en... à l'époque ça s'appelait C, le latin et le grec, C c'était les mathématiques à l'époque, l'équivalent de la série S qui, si j'ai bien compris ce que je lis dans les journaux, va disparaître sous peu. Donc déjà gamin je faisais du latin, j'avais choisi de faire les disciplines humanistes, on va dire, même sans avoir encore décidé de devenir latiniste professionnel, avec la conscience que c'était des choses menacées, et une fois avancé, une fois devenu chercheur professionnel, j'avais gardé, et j'ai toujours, je crois, mon livre en témoigne, cette préoccupation de voir le divorce entre une culture générale ou une inculture. Enfin, je ne veux pas trop jouer mon vieux laudator actori temporis acti, mais objectivement, l'Antiquité et même l'Antiquité, même, je dirais, le passé avant la deuxième moitié du 19e siècle est très très ignoré de nos contemporains aujourd'hui. Alors, on ne peut pas être toujours l'œil fixé vers le passé, j'en conviens, mais Disons qu'il y a une certaine forme d'inculture qui est préoccupante et qui peut conduire à une certaine forme de barbarie, une barbarie douce, soft, comme on... Mais les signes sont... Enfin, c'est une chose qui n'a peut-être pas besoin d'être démontrée. C'est pas l'idéal d'ignorer tout du passé, vous voyez. On va dire les choses comme ça. Donc j'étais préoccupé de ça, et ça a pu contribuer à la décision d'écrire un livre qui essaie de faire la jonction, justement, entre la recherche spécialisée et la culture générale. D'autant plus que j'avais le sentiment, et je l'ai toujours, que la recherche spécialisée, je vois même quand j'en parlais avec Grimal, elle n'a jamais été si féconde, si profitable, c'est pas un mot... Exact, si bénéfique, voyez, si féconde en résultats, affinée dans ses méthodes, féconde en résultats. Donc il y a le paradoxe, il est de plus en plus grand, parce que la recherche, on arrive maintenant à résoudre des énigmes qui étaient véritablement insolubles, on arrive à avoir des connaissances qui étaient inaccessibles.
Grâce à quoi? Grâce aux sciences, hein. Je crois que vous parlez.
Grâce aux sciences, et grâce au fait de croiser les sciences aussi, grâce au fait de croiser les points de vue. Donc, vous voyez, première cause, pour répondre à votre question, la campagne de restauration dans le centre de Rome. Deuxième cause, cette conscience culturelle, cette préoccupation du divorce entre la culture générale, de l'homme et la femme cultivés, mais sans être spécialiste, et la recherche spécialisée. Et troisième cause... Comme nous le disions à l'instant, quand j'ai décidé d'écrire ce livre, j'étais déjà un spécialiste des origines de Rome. Et quand vous êtes spécialiste des origines de Rome, vous êtes spécialiste d'une Rome qui est en gros limitée aux sept collines et à la banlieue immédiate. Donc par voie de conséquence, vous êtes amené à connaître et à commenter le site de Rome quasiment mètre carré par mètre carré. Et donc ça vous oriente vers une perception de ce qu'on appelle la topographie romaine, une perception fine.
Parce que vous avez une expérience également d'archéologue.
Pour dire la vérité, assez faible. C'est-à-dire que je n'ai jamais dirigé de chantier archéologique proprement dit. J'aurais bien aimé quand j'étais à Rome, mais les chantiers qui concernent la Rome des origines, c'est de l'histoire sacrée pour les Italiens. Donc ça, en principe, les étrangers n'y ont pas accès.
D'accord.
Donc j'ai toujours été en relation avec nombre de collègues, dont beaucoup sont des amis, qui fouillent notamment sur les périodes et les chantiers les plus anciens, et encore aujourd'hui, et avec Internet, c'est encore plus facile d'être en relation quasi journalière quand c'est nécessaire, mais j'ai pas moi-même dirigé de chantier. Alors j'ai participé à des chantiers, bien sûr, mais il y a deux types d'archéologues en réalité. C'est ce que disait un grand archéologue qui s'appelait Ranuccio Bianchi Bandinelli dans l'Italie des années 70, qui a été vraiment un des plus grands archéologues italiens du XXe siècle. Il disait il y a deux types d'archéologues, il y a l'archéologue de terrain et l'archéologue de bibliothèque. Celui qui ne fouille pas à proprement parler le sol, mais qui regarde dans les bibliothèques, les vieux rapports de fouilles, etc. Alors j'appartiens à cette seconde catégorie.
D'accord.
Il m'est arrivé dans mes recherches albaines, puisque j'ai fait l'inventaire d'à peu près une centaine de sites archéologiques, et comme j'avais décidé d'aller regarder dans la littérature la plus ancienne, c'est-à-dire des textes du 18e, du tout début du 19e, il m'est arrivé, c'est une expérience d'ailleurs assez extraordinaire, vous êtes assis dans votre siège dans une bibliothèque de recherche française ou italienne, romaine en l'occurrence, et vous voyez apparaître l'évidence d'un gisement archéologique qui n'avait pas été répertorié, par les archéologues professionnels, hein, parce qu'il traîne dans un article de journal, ou il traîne dans un fascicule que personne n'a ouvert depuis le tout début du 19e siècle.
Pourquoi les strates de papier peuvent être aussi intéressantes que les strates de terre? Alors,
exactement, exactement. Donc ça, c'est les deux se complètent en réalité.
Ouais. Hein, vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a un vague fond de vérité dans l'Énéide et dans l'histoire de Rémus et Romulus, ou rien du tout?
C'est une question vaste. Je dirais que...
J'avais 3 minutes.
Voilà. En ce qui concerne aînés, on ne peut pas penser... Enfin, je ne connais personne d'ailleurs qui pense que l'individu aîné a existé. Donc, aîné, c'est un personnage de l'épopée homérique. Alors, peut-être qu'il y a une existence... Non, mais il n'y a pas d'existence, en tout cas dans la péninsule italienne, d'un personnage s'appelant Aîné. Vous savez, au chant 20 de l'Iliade, on dit que Aîné s'échappera avec les descendants de ses descendants. C'est peut-être d'ailleurs une interpolation du 7e siècle avant notre ère. Et c'est dans cette porte entrouverte que s'est engouffré Virgile et bien des auteurs avant lui. Parce que Virgile, oui, Virgile n'a pas du tout inventé la légende d'Aîné. Non. Elle était déjà au centre, ou en tout cas, elle était déjà évoquée par ses prédécesseurs, ses deux prédécesseurs, c'est-à-dire auteurs d'une épopée en latin, qui étaient Naevius d'une part et Ennius d'autre part. Donc, Aîné n'est pas une invention de Virgile. Et Aîné est un personnage qui, du point de vue mythographique, est présent en Occident et en Italie centrale, au moins depuis le 4e siècle, peut-être même avant, 4e siècle avant notre ère. Donc, Aîné n'a pas existé. Maintenant, on peut peut-être dire ce que disait un de mes maîtres, Jacques Urgon, qui était un extraordinaire savant, un extraordinaire étruscologue. Il disait que derrière la légende d'Aîné, il y avait peut-être des vérités concrètes de civilisation. C'était sa formule. Toujours des jolies formules comme celle qui
donc ce sont par exemple les nomades que vous
par
évoquez.
Exemple le fait que vous trouvez des céramiques qui sont des céramiques de type mycénien ou post-mycénien dans la péninsule italienne, ça reflète des courants commerciaux peut-être entre les Mycéniens ou ceux qui leur ont succédé et l'Italie du Sud, et puis de là, de l'Italie du Sud en Italie centrale. Vous voyez donc, voilà, des vérités concrètes de civilisation, ça peut être ça. Alors maintenant, Romulus et Rémus. Romulus et Rémus, c'est pas du tout la même chose qu'Aîné. Si vous me donnez une minute, je dirais que... Alors, Romulus et Rémus, le fait qu'il s'agit de deux jumeaux, là non plus, n'allons pas chercher... une vérité historique. Deux jumeaux, c'est un signe pour le mythe de dire que c'est quelque chose d'important. La gémellité étant un signe de prospérité, étant un signe de faveur divine. Donc, supposer qu'on a un fondateur, c'est bien, un fondateur fils de Dieu, parce que Romulus et Rémus sont les fils de Mars. Ce qui a évidemment une vérité compte tenu de ce qu'est la cité romaine et de son goût de la guerre. Mais si en plus vous supposez que le dieu Mars, il a engendré d'un seul coup, non pas un, mais deux jumeaux, c'est encore mieux. Deux enfants, c'est encore mieux. Alors, cela dit, quitte à passer pour exagérément naïf, je suis de ceux, on est quand même quelques-uns maintenant, qui pensent que la légende de Romulus, disons Romulus plutôt que Romulus et Rémus, la légende de Romulus, c'est-à-dire l'idée que sur le Palatin, au milieu du 8e siècle avant notre ère, il y ait eu une initiative de type communautaire, identitaire, et comment dirais-je, à la fois religieuse et politique. L'idée que cette légende et que cette série d'initiatives ait été due à l'impulsion d'un seul individu. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à appeler cet individu Romulus et on est en accord avec la légende. Je suis de ceux qui pensent donc que cette légende a une part de vérité historique. Historique. Je n'hésite pas à prononcer ce mot historique. Pourquoi cela? Parce que précisément, alors là, j'étais plus à Rome, c'était au moment où j'en partais, mais il y a eu toute une série de découvertes qui continuent encore aujourd'hui. Et on a découvert à partir de l'été 1988, et grâce à la courtoisie et à l'amitié d'un des fouilleurs, j'ai pu mettre une photo tout à fait extraordinaire à la fin de mon livre qu'on voit. On a mis au jour, à ce moment-là, les fouilleurs cherchaient plutôt des traces de ce qu'on appelle l'archaïque à Rome, c'est-à-dire 6e siècle avant Jésus-Christ. Puis ils ont creusé et ils ont trouvé les traces d'un mur, d'une muraille, comment appeler ça, oui, d'une délimitation faite de pierre et de bois. Alors le bois a disparu, mais on retrouve des traces. Et courant au pied du Palatin, sur une quarantaine de mètres, c'est pas beaucoup, 45 mètres, mais enfin en 3 ou 4 segments, au moins au pied du Palatin occidental, c'est-à-dire la pente qui regarde le forum, et datant du milieu du 8e siècle avant notre ère.
D'accord. Donc, c'est le
donc vous avez l'archéologie qui vous dit qu'il y a un mur, au moins du côté forum, au pied du Palatin, milieu du 8e siècle, et puis vous avez une légende qui vous dit qu'il y a un type qui s'appelle Romulus qui fait faire un mur autour du Palatin au milieu du 8e siècle. Alors vous pouvez décider que ça n'a aucun rapport, mais c'est peut-être plus intelligent de se demander s'il n'y a pas justement une relation de cause à effet entre la réalité et la légende. Et c'est ce que j'ai fait.
Ouais. Donc on peut dire que l'histoire de Rome commence avec cette sédentarisation, donc la création du mur, c'est le fait qu'on va habiter, non ?
Non, elle commence bien avant.
Et c'est avec cela... des nomades aussi ?
Non, avec déjà des gens
avec
qui
des
sont...
cabanes.
Oui, avec des cabanes. Ouais. Avec des gens qui sont déjà sédentaires depuis au moins, en réalité, depuis au moins, on va dire, sur le Palatin, depuis au moins le 10e siècle avant notre ère, deux siècles avant. Et ça, c'est un argument que certains collègues croient m'opposer à moi et à ceux d'entre nous qui sont, on va dire, sommes partisans de Romulus, en schématisant un peu, comme si c'était une objection majeure. Alors oui, c'est vrai que la légende, ne dit pas le vrai lorsqu'elle dit que Romulus a fondé Rome dans un désert. Le Palatin n'était pas habité. Mais une légende, c'est une légende. Et donc, elle cherche à mettre en avant l'originalité de l'initiative de Romulus. C'est encore plus une initiative encore plus spectaculaire si on suppose qu'il n'y avait rien avant. Mmh. Mais quand vous regardez d'ailleurs le détail de la légende, vous voyez qu'il y a des signes qui montrent que... il y avait une conscience obscure que le site était occupé depuis plus longtemps. Regardez la légende de Cacus, par exemple. Hein, Hercule, Cacus, tout ça. Donc, et Vendre aussi. Donc, Rome était, le site de Rome est occupé. Les premiers signes d'occupation du site de Rome, c'est 16e siècle avant notre ère, sur le Capitole. Où on voit, et ça ce sont des découvertes toutes récentes, ça fait partie des découvertes récentes que j'ai voulu, dont j'ai voulu nourrir mon livre. On s'est aperçu que le versant qui regarde le Tibre, le versant septentrional du Capitole, a été fortifié, terrassé, mis un terrassement je veux dire, par quelques dizaines d'individus vers le 16e, 17e siècle avant notre ère. Avant notre ère. Donc, le Capitole seulement, sans doute. À ce moment-là, sans doute, s'agit-il de contrôler le gué qui est en bas, du fleuve qui est en bas, c'est-à-dire le Tibre, c'est-à-dire le gué du Tibre.
Oui. Donc, avant on contrôle, un pont bien
on,
plus tard.
On met un point fortifié pour pouvoir exiger un péage, forcément. Et du coup, le lieu qui est le lieu de ce point de contrôle s'enrichit, bien entendu.
Oui.
Et s'étend. Voilà. Et du coup, on peut avoir un habitat stable qui va arriver assez rapidement. Enfin, assez rapidement. Attendez, 18e siècle avant Jésus-Christ, vous voyez, et 8e siècle avant Jésus-Christ, Romulus, il y a un millénaire entre les deux. Donc je dirais, en termes archéologiques, je dirais que la fortification du Capitole, donc là, on est à l'Apennine, sub-apenninique moyen, donc c'est quand même la proto-histoire déjà loin, encore là, très lointaine. C'est le point de départ d'un processus qui va durer
plus
de 1000 ans. Ouais. Mais c'est ce qui rend possible la fixation.
Ouais.
Voilà,
et ensuite, l'accélération.
Et ensuite, donc vous avez l'entrée de ce que les archéologues appellent le proto-urbain. Le pré-urbain, pour eux, c'est ce qui n'est pas du tout et qui ne sera jamais urbain. Hein, pré-urbain, c'est pas urbain, c'est dans le langage, dans le jargon actuel. Proto-urbain, c'est ce qui éventuellement débouchera sur... Voilà, donc le début, ce qui a permis l'entrée dans le proto-urbain, c'est le point d'appui fortifié du Capitole. Ensuite, vous avez une occupation du site, le Capitole, la vallée du Forum, peut-être, ça c'est discuté, le Palatin, sûr, mais qui va mettre plusieurs siècles à se diffuser. C'est encore des petits hameaux de quelques cabanes, vous voyez. Et donc, on sait qu'au Xe siècle, pour le coup, on a déjà acquis une certaine densité. Je ne pense pas que, c'est discuté, mais je ne pense pas que le Palatin ait encore été unifié au Xe siècle. Mais il est de fait que dans sa partie qui regarde le Tibre, il y a un gros village. Peut-être dans la partie qui regarde aujourd'hui du côté du Colisée, il y a un autre village. Je doute qu'à cette époque, au Xe siècle, toute la colline, qui fait quand même 45 hectares, soit occupée. Et puis, je dirais qu'il n'y a pas contradiction, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, il n'y a pas contradiction entre densification progressive du site, entre formation, pour reprendre le terme d'un célèbre archéologue allemand, entre Stadtwerdung, le devenir urbain, et Stadtgründung, c'est-à-dire fondation de la ville. On a longtemps, nous qui défendons l'idée d'une historicité au moins partielle de Romulus, opposé justement ces traces préexistantes au 8e siècle. Mais ce n'est pas une objection. C'est tout simplement la condition de possibilité pour que un type puisse à un certain moment, milieu du 8e siècle, dire on construit un mur, on surélève le sol du forum, on construit un sanctuaire pour un feu communautaire, Vesta, on peut en parler, on construit une place publique là où il y aura le futur comitium, tout ça d'un seul coup, tout ça en une seule génération. Il faut qu'il y ait eu plusieurs générations de proto-urbains, oui, de plus en plus denses. Donc il n'y a pas contradiction entre, malgré ce que croient certains et ce qu'écrivent certains encore aujourd'hui, il n'y a pas contradiction entre formation progressive, anonyme, lente, partielle, et fondation. Fondation événementielle, individuelle, ponctuelle, historique. Et les deux ne sont pas contradictoires. C'est parce qu'il y a eu agrégation progressive dans le site des sept collines près du gué du plus grand fleuve de la péninsule, à part le Pô. C'est parce qu'il y a eu densification progressive de la présence humaine qu'à un certain moment, un seuil est franchi et qui permet la création d'une entité politique, consciente d'elle-même et revendiquant son identité. Et d'ailleurs, sociologiquement, ça correspond à quelque chose qui avait déjà été repéré dès le milieu du XXe siècle, c'est-à-dire la formation d'une aristocratie. On sait que le milieu du VIIIe siècle, voilà, il y a une aristocratie qui existe en tant que telle, qui a des troupes de dépendants socio-économiques, comme on dit en sociologie, à son service. Et il y a une relation profonde entre la formation d'une aristocratie et la formation qui est une différenciation entre les individus et la formation d'un centre fortifié et avec un statut religieux sans doute privilégié qui correspond à une différenciation, cette fois-ci non plus entre les individus, mais entre les sites.
Alors cette distinction entre, enfin, l'apparition de cette aristocratie, elle va surtout se marquer, si j'ai bien lu votre ouvrage, donc Urbs, histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste chez Perrin, aux alentours de la Première République, lorsque se distingue vraiment une plèbe d'un patriarcat, donc ce que vous appelez les premières 200 familles,
oui.
C'est là où vraiment on voit...
Oui, alors c'est là où les choses se figent.
Oui, c'est ça, où là,
les choses
vraiment
se figent.
L'aristocratie
voilà.
se pose. Quoi.
Voilà, mais elle se ferme à ce moment-là. C'est-à-dire qu'avant, l'aristocratie était un phénomène mouvant, en évolution, et à partir du moment où les rois s'en vont, sous la pression peut-être d'ailleurs d'une partie de cette aristocratie, l'élite nobiliaire, les clans nobiliaires qui ont le pouvoir à Rome décident que on peut plus comme ça les rejoindre comme ça et ils vont rester entre eux et se perpétuer avec leur descendance et se fermer à autrui. C'est ce que un très grand historien italien du début du XXe siècle qui avait identifié le phénomène a appelé la serrata del patriziato, le resserrement du patriciat. Les patriciens, comme un mot qui existe encore aujourd'hui, en général on l'emploie pour la côte ouest des États-Unis, je crois, on dit les patriciens de la côte, voilà, ben les patriciens, c'est-à-dire c'est quoi les patriciens? C'est ceux qui, c'est les patriqui, hein, c'est ceux qui sont patres, qui sont membres du Sénat et qui sont fils aussi de patres. Hein. Donc c'est des sénateurs et pères des futurs sénateurs. Voilà, c'est ça cette clôture du patriciat, de la noblesse romaine, on l'a repéré, ça se fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, cette idée, j'ai repris des recherches qui font autorité, celles notamment du grand juriste André Magdelin, que j'ai eu la chance de bien connaître. Eh bien, cette fermeture du patriciat romain, elle se fait au début du VIe... qu'est-ce que je dis ? À la fin du VIe siècle avant notre ère, au début de la République, en fait.
Oui.
Alors ça aurait pu aboutir à une guerre civile si le mouvement avait continué. La plèbe du coup va se former, se forge. Voilà. Et plèbe, et ce que les recherches récentes ont établi, notamment en France suite aux recherches d'un très grand historien qui s'appelle Jean-Claude Richard, qui était professeur à la Sorbonne, il a montré que la formation de la plèbe et la formation du patriciat, ce sont des phénomènes situés en interdépendance. C'est-à-dire que la plèbe se forme parce que le patriciat forme, mais que du coup le patriciat se devient encore plus exigeant sur les critères d'appartenance à son et par rapport à une plèbe. Vous voyez, donc c'est les deux se posent en s'opposant. Si je reprends j'emploie une formule que j'ai employée.
D'accord.
Et donc tout ça aurait pu aboutir à des guerres civiles inexpiables.
Et comment est-ce qu'on les fait,
et en réalité, les Romains ont résolu, contrairement à beaucoup de cités grecques qui se sont abîmées dans des guerres civiles et qui ont parfois tourné aux guerres d'anéantissement réciproque, les Romains, finalement, ont trouvé un moyen d'accord et le patriciat a accepté de baisser certaines barrières et de laisser entrer dans les plus aisés ou les plus ouverts des plébéiens. Les plébéiens ont cherché à s'allier par mariage avec les patriciens et on a assisté à un véritable compromis historique dont les étapes sont bien connues. Première sécession, bien connue des historiens de Rome. Deuxième sécession, puis le fameux compromis des années 366 qui va aboutir à la formation d'une véritable noblesse. Alors, on n'emploie plus le mot de patricia, on emploie désormais le mot de nobilité. Et la noblesse romaine va être désormais formée aussi bien d'anciens membres de famille du patriciat Première République que de famille de la plèbe. Vous avez des plébéiens qui seront désormais membres de la noblesse.
C'est un représentant de la plèbe, non ?
Oui, César, c'était un noble, mais qui était partisan de la plèbe. Oui. Voilà.
Et ça commence à recouvrir aussi des enjeux tout simplement politiciens également. C'est-à-dire qu'il y a des
Doute. Et en réalité, à partir du IVe siècle avant notre ère, cette noblesse romaine se réconcilie. Disons que la société romaine se réconcilie sur. C'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre et dans d'autres travaux. Se réconcilie sur l'idée, l'horizon d'une conquête extérieure, d'une conquête sans fin. On arrête de se taper dessus parce que après tout, en faisant la conquête de territoires et des peuples extérieurs, on trouvera toujours le moyen de s'accorder et chacun y prendra sa part. Vous voyez, et c'est ce compromis fondé sur la conquête qui va devenir la caractéristique de la société romaine, au moins de l'époque républicaine et du début de l'Empire. Et c'est comme ça que ce projet, si je puis dire, de conquête sans enfin, m'apparaît comme le véritable contrat social de la République romaine.
D'accord.
Alors là où ça intéresse
elle
mon livre...
Elle s'est aussi construite dans l'adversité, parce qu'on repart un tout petit peu en arrière, mais il y a aussi les invasions gauloises avec Brennus, celui qui était connu sous le nom de Brennus en tout cas, et un certain nombre d'autres. Donc oui, la guerre, fils de Mars, donc ça a un sens tout au long de l'histoire.
Ah complètement, oui. Les Romains sont très conscientes de tout ce qu'ils doivent à la guerre.
Oui.
Alors je sais bien qu'il est un peu à la mode aujourd'hui, on parle des défaites, il y a des livres sur les défaites romaines, on montre que les Romains, mais enfin, il faut raison garder. Moi j'invite chacun à regarder une carte. Rome vers 750 avant Jésus-Christ, c'est la ville et guerre plus. Rome vers 550 avant Jésus-Christ, c'est quoi deux départements français. Rome vers 264 avant, à partir de 264 avant Jésus-Christ, c'est déjà toute la péninsule italienne. Rome, à partir de 100 ans plus tard, c'est toute la, c'est la Macédoine, la Grèce et la Grèce et l'Afrique du Nord. Voyez, donc les cartes sont parlantes. Peut-être qu'ils ont subi des défaites. Bien sûr, ils en ont subi beaucoup, mais c'est normal, voilà. Et mais n'empêche que ils avaient beau prendre des défaites, ils ne renonçaient jamais. C'est d'ailleurs ce qu'Hannibal a découvert à son détriment. Il leur avait infligé une raclée mémorable à la bataille de Cannes. Dans le raisonnement, je dirais, de la guerre classique, Rome ne pouvait que chercher la paix après une défaite pareille. Mais ce n'était mal connaître les Romains. Les Romains ont décidé de... ne se sont pas... ils ont eu la tentation, mais ils n'ont pas, comme chacun le sait, ils ont continué la guerre et ils ont fini par non seulement chasser Hannibal, mais vaincre Carthage. Hein? Donc c'est la caractéristique des Romains. Certes, ils encaissent des défaites, certaines par négligence d'ailleurs, mais à la longue, ils ne renoncent jamais. Et quand ils ont décidé de réduire un adversaire, je parle de la République, en général, ils y réussissent.
L'imagerie populaire, c'est-à-dire les péplums, Astérix, la littérature, etc., nous montre souvent la Rome classique à l'époque de Jules César. Or, Jules César vivait dans une Rome où il y avait encore des éléments en bois, si j'ai bien suivi.
Oui, et certainement.
C'est lui qui lance les grands travaux dont va hériter Octave Auguste, en fait, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que de toute façon, Rome n'a pas cessé... Parce que là, on a été de la période archaïque jusqu'à César, mais ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que on vient de parler beaucoup de la guerre. Et donc, Rome est tout le temps en guerre. Et il faut savoir que, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, qui est une histoire urbaine. J'ai pas fait une histoire romaine. J'ai fait une histoire de la ville de Rome. Intramuros.
Et la manière dont elle évolue.
Et la manière dont elle évolue en fonction de la ville de Rome. Voilà, j'ai essayé finalement de donner à l'adjectif romaine son sens plein. L'adjectif romaine, c'est l'histoire romaine, c'est l'histoire de ce qui se passe à Rome en fonction de la maîtrise de tel ou tel territoire acquise par le pouvoir romain. Mais ce qui est intéressant pour l'histoire de la ville de Rome, c'est que chaque conquête donne lieu à la célébration d'un triomphe. Ça, c'est déjà une chose à raconter, parce qu'un triomphe, c'est quand même une espèce de carnaval de Rio à la puissance 10. Et d'autre part, après le triomphe, vous avez quoi ? Vous avez la construction d'un temple avec l'argent du butin. Et la construction d'un temple, victoire après victoire, on aboutit à l'ajout, la superposition, enfin pas la superposition, mais la, ce qui sont pas le voisinage de beaucoup de temples, puisque chaque victoire romaine pendant toutes ces centaines d'années qui séparent le début de la République dont on parlait il y a un instant et César, chaque victoire romaine a donné lieu un triomphe, certes, ça laisse des traces dans la génération qu'il a vécu, mais guère au-delà, mais surtout à la construction d'un temple. Un temple pour remercier les dieux. Et vous avez ainsi une ville qui est pleine d'édifices qui rappellent les victoires. Donc on peut dire que la ville de Rome est pour ainsi dire une espèce de gigantesque mémorial de pierre par rapport à tout ce passé de batailles et de victoires auxquelles nous avons fait allusion. Alors quand César arrive, donc César il est né vers 100 et il mourra, comme chacun sait, en 44 avant Jésus-Christ. Il est en Gaule de 58 à 52 avant Jésus-Christ. C'est là où il devient véritablement César, donc un conquérant et un rival de Pompée. Ce que je montre dans mon livre, c'est que lui, comme d'ailleurs ses prédécesseurs quand ils étaient en guerre contre une puissance extérieure, il accompagne ses victoires de la construction et de la modification de l'urbanisme de Rome. Alors comme il est César et comme ses victoires portent non pas sur une petite peuplade séparés, mais sur ce pays gigantesque à l'échelle de la Rome d'alors, que sont les trois Gaules, hein, la Gaule narbonnaise, la Gaule aquitaine, la Gaule belgique. Les Romains parlent plutôt des Gaules que de la Gaule. Et donc ces territoires gigantesques que les Romains connaissaient déjà, avec lesquels ils commerçaient, beaucoup plus que ne le dit César. Mais voilà, la conquête est accomplie par César. Et à partir d'avril 52, à partir d'Alésia, on peut dire que la conquête est à peu près achevé, même si la, la Gaule est, est exsangue. Mais il faut se rendre compte que ces victoires ont donné à César des capacités d'intervention dans le, l'urbanisme romain absolument gigantesques, sans commune mesure avec tout ce qui avait précédé. Pline nous dit, et Plutarque nous disent quelque part que la guerre des Gaules a coûté aux Gaulois 1 300 000 morts, 1 million de prisonniers, 1 million de blessés.
Donc il faut se rendre. Ce sont des chiffres réels ?
Tout à fait fiables. Ah oui. Je pense qu'ils sont tout à fait fiables. C'est monstrueux.
Par rapport à la démographie.
C'est monstrueux. Vous savez, Christian Goudineau, qui enseignait ce qu'on appelle les antiquités nationales, c'est-à-dire l'histoire de la Gaule proto-romaine et romaine au Collège de France et qui est malheureusement décédé il y a peu de temps, Christian Goudineau disait souvent, et l'a écrit à plusieurs reprises dans ses livres, qu'une bataille comme Alésia et les grandes batailles de César en Gaule avaient mis en jeu des masses humaines à une proportion qu'on ne reverrait pas en France avant les guerres napoléoniennes 1814 et la Première Guerre mondiale. Ouais. C'était de ce niveau-là.
D'accord. Donc ça veut dire plusieurs dizaines de milliers d'hommes,
oui.
Centaines de milliers.
Oui, oui. Il allait même jusqu'à dire que l'armée de secours pour dégager Alésia avait avoisiné les 700-800 000 hommes. Donc on n'imagine pas ces masses humaines. Donc tous ces gens ont été ou tués ou faits prisonniers par César et donc revendus. Donc César est dans le...
Donc les butins sont gigantesques.
Gigantesques.
Donc les capacités de construction... Gigantesques,
vous avez compris, exactement. Pline l'Ancien nous dit que, je crois, César avait pris 800 villes. Enfin, il appelle villes sans doute aussi des petites forteresses. Mais enfin, à chaque fois, les sanctuaires ont été dépouillés de leurs objets précieux, sans vergogne, hein, par César, bien que César fût grand pontife, déjà depuis l'année 63 avant notre ère. Et donc César est... Voilà, c'est exactement ce que vous dites. Il a des capacités d'intervention. Il est riche à centaines de millions de sesterces. D'ailleurs, il faut voir toute la noblesse romaine lui faire sa cour. On voit ça un peu par la correspondance de Cicéron pour faire partie de son état-major en Gaule. Parce qu'on sait que faire partie de l'état-major de César, c'est... très, très rentable. Hein. Et même Cicéron fait des pieds et des mains pour que son frère, je crois, puisse être engagé par César. Et il le sera, d'ailleurs. Et donc César a des capacités d'intervention gigantesques et il va modifier tout le centre de Rome. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va décider de faire un nouveau forum. Comme chacun sait, le forum de César. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où cette histoire, j'ai essayé de saisir cette histoire urbaine dans la longue durée, c'est que, et ça j'ai eu la chance de pouvoir utiliser, c'est là où je suis archéologue de bibliothèque, n'est-ce pas ? J'ai eu la chance de pouvoir utiliser, alors qu'ils étaient à peine parus, les rapports de fouilles très récentes faites dans le sous-sol du Forum de César à Rome. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit, on s'est aperçu dans les années 2004-2010 que César a construit son Forum. Là, on sait très bien où il l'a construit. C'est dit dans le moindre des guides. Voilà, on regarde la Curie et derrière, il y a le Forum de César, tout le monde le sait. Mais en réalité, c'est sans doute la zone principale où, en 390 avant Jésus-Christ, on sait que les Gaulois avaient pris Rome. Des Gaulois, ce que les textes grecs appellent les Celtes, s'étaient emparés de Rome en 390, correspond peut-être à 387 avec notre chronologie, avant Jésus-Christ. Ça, c'est un fait historique, il n'y a pas à en douter. Or, ce que montre l'archéologie, la plus récente, c'est que, parce qu'il y a des traces d'incendie qui remontent à ces décennies-là, c'est que c'est sans doute, ils avaient sans doute un très gros bivouac, il faut imaginer des dizaines, des centaines de tentes de cette armée gauloise, dans la vallée du Forum, particulièrement à l'emplacement où César fera son Forum. Donc là, il y a
Est-ce que vous pensez que c'est une relation de cause à effet?
Bien entendu, j'en suis persuadé, oui. Et pas seulement moi, les fouilleurs...
C'est le coup du wagon de rotonde...
Exactement, c'est un peu ça. D'ailleurs, l'idée n'est pas de moi, elle des fouilleurs. hésité à l'avancer si elle était seulement de moi, mais j'ai vu qu'elle est dans les rapports de fouilles récents à propos du forum de César. C'est-à-dire qu'il a décidé de construire son forum. La mémoire de cela a été conservée par des lieux dits. On parlait des Busta Gallica, des bûchers gaulois, par exemple. Il a décidé de construire son forum, disais-je, César, là même où la tradition, et nous savons aujourd'hui que la tradition disait sans doute le vrai, avait conservé le souvenir que les Keltoi, les Gaulois de 390, avaient établi leur principal campement. Vous voyez, c'était vraiment une manière de dire à l'opinion romaine, je suis le vainqueur des Gaulois, et l'affront est effacé. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne peut comprendre cette histoire romaine que, d'une part, par rapport à l'impérialisme romain,
et sur la longue durée,
et dont nous avons abondamment parlé, voilà, la guerre, Rome est tout le temps en guerre et tout le temps en train de faire des conquêtes, et chaque conquête donne lieu à une initiative monumentale, et d'autre part sur la longue durée. Voilà.
Alors malheureusement César, enfin malheureusement en tout cas c'est un fait, il meurt en 44 donc poignardé.
Oui, il serait mort de toute façon.
Il serait mort un jour. Donc, et il est donc remplacé, vengé également ensuite par Octave Auguste, enfin Octave futur Auguste, et c'est lui qui en fait en le temps de son règne. Donc si on lit donc encore une fois le livre d'Alexandre Grandazzi que j'ai le plaisir de et l'honneur de recevoir. Donc, dont le livre s'appelle Urps, Histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste chez Perrin. C'est lui qui, en l'espace d'un règne, va métamorphoser Rome de manière beaucoup plus profonde que tous les autres dirigeants pendant plusieurs siècles.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, en gros, il fait passer Rome de la brique au marbre, du bois au marbre, et il lui donne cet aspect absolument monumental qui en fait la capitale d'un empire gigantesque. Et c'est lui qui donne ce côté monumental, donc oui. À la ville qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, alors, il faut bien voir que au moment de la bataille d'Actium, le risque était, et depuis quelques années déjà, le risque était quand même grand que le monde romain se scinde en deux, se sépare en deux. Finalement, on peut être surpris dans cette histoire romaine d'une chose, c'est que la séparation qui finira par advenir entre la partie occidentale et la partie orientale ne se soit pas faite avant. Mais il est de fait que la victoire d'Auguste à Actium a permis une réunification de deux ensembles qui commençaient déjà à évoluer chacun de leur côté. Alors il faut voir que Octavius, il est adopté par César, et comme tous les adoptés, quand on est adopté à Rome, on prend un nom et une désinence qui change, donc il devient Octavianus. Et puis en 27 avant Jésus-Christ, mais en général les Romains continuent à l'appeler Octavius, et ceux qui sont ses partisans politiques l'appellent, à la grande indignation ironique de Cicéron, César. Et après 27 avant Jésus-Christ, il est Augustus. Mais quand vous voyez dans les textes de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ qu'il est question, regardez par exemple les Géorgiques de Virgile, Caesar, c'est pas celui que nous appelons César, c'est Octave. Octave, hein, faut bien voir ça. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que Octavien, il est le maître de Rome dans cette répartition qui s'est faite entre lui et Marc Antoine. Il est le maître de Rome depuis en gros 43 avant Jésus-Christ. Et il va mourir, comme c'est bien connu, je pense, en 14 après Jésus-Christ. Donc vous voyez, il y a 50 ans. 50 ans. Ça ferait rêver nos gouvernants, je pense. Il a,
quinquennat.
Voilà, et il a le pouvoir à Rome de faire à peu près ce qu'il veut. Enfin, c'est pas un pouvoir absolu, faisons pas d'anachronisme. Mais en tout cas, en matière d'urbanisme, il est le maître du jeu. Et il a ce pouvoir pendant 50 ans. Donc déjà, durée de cette domination. Et le second élément, c'est qu'il est le maître à partir de 31. Alors de 43 à 31, il a déjà fait beaucoup de choses à Rome, et on peut y revenir dans un instant, mais à partir de 31 en tout cas, il est le maître du monde romain dans son entier. Et dans sa grande mansuétude, il ne détruit pas, il ne fait pas détruire par ses légions la ville d'Alexandrie, sans doute la plus riche du monde antique d'alors, mais il lui donne des impôts qui, comme dit l'historien Dion Cassius, permirent ensuite de construire de nombreux temples à Rome. C'est-à-dire que les sommes que les indemnités de guerre que Octavien avec lesquelles prélève sur l'Égypte vont être gigantesques, et n'oublions pas qu'il a réussi finalement à s'emparer du trésor royal de Cléopâtre. Elle voulait le détruire, mais en rusant, parce que c'est un homme de la ruse, il a réussi à mettre la main, non pas sur Cléopâtre, qui lui a échappé par le suicide, mais sur son trésor royal. Et ça aussi, ça contribue à agrandir sa latitude d'action. Donc vous avez quelqu'un qui est très longtemps au pouvoir, qui est le seul à son niveau, et qui donc et qui est immensément enfin qui est doté de richesses immenses. Toutes les richesses du monde romain, je vais pas dire qu'elles lui appartiennent, ce serait faux, mais enfin il peut plus ou moins en disposer. Alors attention, il en dit, c'est pas toujours lui, parce que Octave est quelqu'un d'infiniment habile, il va justement éviter ce qu'avait fait César, c'est-à-dire l'arrogance, donner aux Romains l'impression de l'arrogance, du pouvoir solitaire. C'est un génie politique, c'est pas du tout un génie militaire, au contraire, c'est un pleutre, c'est quelqu'un d'un, il le sait très bien, il est pas toutes les batailles qu'il a gagnées, à commencer par celle d'Axium, elles ont été gagnées par d'autres, par Agrippa ou par des gens comme Statilius Taurus, mais c'est un génie de la politique. Et il a compris que pour s'imposer, et pour s'imposer durablement, parce que il a compris que s'imposer, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est de durer. Et durer, c'en est une autre. Ça, c'est des leçons de César. Il a tiré les leçons de l'expérience de son grand-oncle. Et donc, il va, et puis il a compris qu'il ne peut pas, pour avoir un régime qui s'établisse dans la durée, il faut donner aux Romains, et surtout à l'élite gouvernante, cette élite qui n'a pas été très brillante, hein, mais il faut lui donner le sentiment qu'on revient à l'ordre, à l'ancien ordre des choses, qui n'est pas celui d'une république, avec ce que nous mettons comme valeur derrière le mot république, mais qui est celui, c'est-à-dire liberté, égalité, non, c'est pas du tout ça. République romaine, c'est-à-dire oligarchie, une oligarchie où on s'occupe du peuple pour qu'il ne crève pas de faim, mais où on reste entre soi, n'est-ce pas? Et Octave, il a besoin de l'aristocratie pour gouverner cet immense monde romain. Il a absolument besoin, il ne peut pas gouverner sans eux. Il faut des gens capables de s'exprimer bien, capables d'avoir de conceptualiser les choses. Il faut qu'ils puissent. Il a besoin de quelques milliers de personnes chaque année pour l'aider, pour gouverner en son nom. Et s'il ne les a pas, son pouvoir deviendrait factice. Donc, pour garder le soutien de cette frange de l'élite dirigeante romaine et dont il veut se faire qu'il veut avoir comme allié, il va faire des concessions, il ne va pas arrêter de faire des concessions et il va faire comme s'il n'était qu'un magistrat un peu plus important que d'autres, mais enfin primus inter pares, n'est-ce pas? Et c'est ce régime très bizarroïde, très difficile à définir, qu'on appelle le principat. Principat de princeps, qui veut dire le premier, princeps senatus, qu'on pourrait traduire par le doyen du Sénat. Et donc, voilà, c'est ce régime très particulier, mais qui lui donne le pouvoir sur la longue durée et qui va lui permettre d'intervenir à une échelle jamais vue jusque-là, parce qu'il a la durée, tout simplement. Personne n'a eu 50 ans de pouvoir à Rome comme lui, personne.
Vous évoquiez tout à l'heure, dans les années 80, les monuments en train de se faire rénover régulièrement, et lui, c'est ce qu'il va faire précisément à son temps.
Oui, alors il va...
rénove l'ensemble des temples, il crée de nouveaux...
Si on veut résumer son action dans les minutes qui nous restent, quelques minutes qui nous restent, il avait déjà commencé une action importante, fait commencer par d'autres, comme toujours, c'était pas mis en première ligne, c'est une de ses habiletés. En 33 avant Jésus-Christ, donc la bataille d'Axium se prépare, mais n'a pas encore eu lieu. Et Octave, qui est très informé, il sait qu'il n'a pas l'opinion du petit peuple de Rome pour lui. Et ça compte d'avoir le soutien de l'opinion romaine. Alors il va faire une chose, l'opinion romaine, elle en pince pour Marc-Antoine, qui est plus courageux, plus meilleur soldat, et donc elle est plutôt du côté de Marc-Antoine. C'est dangereux de partir pour l'Égypte en laissant une ville qui en réalité serait voyez, ne serait pas fiable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire par Agrippa son numéro 2, qui est véritablement certains de mes collègues appellent même Agrippa le co-régent. Il va faire en un an, très rapidement, une grande campagne de travaux publics, sans doute gigantesque, qui aboutit à doter chaque quartier, mais quartier au sens assez restreint du terme, d'une fontaine. Donc vous avez 500 fontaines qui sont aménagées dans Rome et qui permettent à chacun d'avoir l'eau courante, pas à domicile, mais presque. C'est une réforme énorme. Et j'ai repris les calculs de spécialistes dans mon livre et on voit que Rome, d'un seul coup, atteint un niveau d'hygiène et de disponibilité en eau courante qui ne sera pas retrouvé dans l'histoire humaine avant le milieu du 19e siècle. Vous voyez, donc c'est prodigieux. Oui. Mais ça, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ben, le peuple de Rome, il cesse de lui être hostile. Je ne vais pas vous dire qu'il devient un partisan fanatique de ce jeune homme pâle et cruel, mais enfin, il arrête de lui être hostile. Et comme ça, Octave, ce qui est déjà beaucoup, Octave s'en va gagner la bataille d'Axium. Et une fois qu'il va être...
Oui. Est-ce que les gens ont vraiment conscience de qui il est? Est-ce que le Romain moyen se soucie du monarque?
Pas trop.
Il n'y a pas BFM TV, quoi. Donc,
Non, mais on le voit quand même, on le voit passer, et surtout au grand cirque.
Ah oui.
Au grand cirque. Alors quand je dis grand cirque, moi je pense que c'est ça, les auditeurs doivent penser au cirque quelque chose de rond où on voit des clowns. Le mot cirque, c'est Circus Maximus. Il faudrait mieux le traduire comme le fait Madame Françoise Chandernagor dans ses excellents romans Les Enfants d'Alexandrie, par exemple. Elle a pris comme traduction le grand hippodrome pour ce grand espace qui effectivement sert principalement d'hippodrome et qui est dans la vallée entre le Palatin et l'Aventin. Donc
circulaire.
Oui, mais il n'est pas circulaire, en fait. Vous savez bien qu'il n'est pas circulaire, parce que c'est un grand rectangle dont les extrémités sont incurvées. C'est ça, le grand cirque. Hein, donc, quand vous dites cirque, vous pensez quelque chose de circulaire en français. En réalité, Circus, c'est 1,5 km de piste, et avec simplement, sur les petits côtés sont à ellipse. Mais je ne sais pas comment on appelle ça en géométrie, mais c'est pas un cercle, en tout cas. Donc, je pense que la traduction par le grand hippodrome serait préférable, mais elle n'est pas usuelle. Toujours est-il que c'est là, devant 180 000 citoyens, spectateurs, que le maître de Rome vient régulièrement et il fait semblant de s'intéresser au spectacle. Il a retenu la leçon, César souvent faisait son courrier et traitait les affaires d'État, mais ça n'avait pas plu aux Romains. Donc Auguste s'y prend plus habilement, il fait peut-être son courrier sous le pupitre, enfin il s'arrange, mais on ne le voit pas trop, et il fait semblant de s'intéresser. Cette présence du chef de l'État au grand spectacle sportif, scénique, organisé régulièrement, notamment au grand hippodrome, est une manière de lien direct entre le chef de l'État et la population. Et c'est très très important. C'est très important. Absolument rien inventé. Non, absolument rien inventé. Ça, il faut montrer qu'on s'intéresse non pas au football qui n'existe pas encore, mais aux courses de chars. Et il faut y aller, parce que si on n'y va pas, on fait preuve de dédain. Donc, et à chaque fois que le princeps, le chef de l'État, arrive dans la loge d'honneur qui lui est réservée, que tout le monde voit, qui est au central, il n'y a pas de sondage à l'époque, mais il comprend tout de suite où en est sa popularité. Vous voyez, s'il ne se passe rien, c'est mauvais signe. Parfois, il peut même y avoir des broncas, enfin des véritables. Si c'est des applaudissements nourris comme c'est la règle, il voit que ça peut aller. Donc il y a une espèce de dialogue un peu frustre, dialogue un peu élémentaire, mais tout à fait fondamental entre le peuple et son monarque. Oui, il faut bien. Mais Auguste a l'habileté de refuser absolument ce titre de monarque, même si son action urbanistique, pour en revenir à notre sujet, est effectivement celle d'un monarque. Mais faisons attention quand même que bien des monuments, il les a fait faire par des amis. J'ai dit Agrippa, c'est Agrippa qui a fait les fontaines. Ça, c'était parce que c'est un peu vulgaire d'aménager une fontaine, donc il a laissé ça à Agrippa. Et puis, il y a aussi d'autres temples qu'il a fait aménager par des partisans du régime. Le temple de Diane sur l'Aventin a été complètement refait par un partisan du régime. Sans doute, peut-être avec, ça on en discute entre spécialistes, avec de l'argent qu'il avait donné en sous-main, mais officiellement c'était pas lui, mais c'était sous son inspiration. En tout cas, il est certain qu'au bout de 50 ans de présence, Rome est entièrement refaite. On peut même dire qu'il y a même une année où en une seule année, il le dit dans son inscription testamentaire, il a fait refaire 84 temples. Et il est très rare de voir à Rome un temple qui n'est pas une phase augustéenne, vous voyez, intéressante, importante même. Et donc Rome est complètement transformée à l'issue de son gouvernement, de son règne, on peut dire son règne, de ses 50 ans de règne, de son demi-siècle de règne, et d'où la phrase célèbre sur son lit de mort, j'avais trouvé une Rome de briques et je la laisse de marbre. Hein, c'est Suétone qui raconte ça, hein, latericam urbem, c'est marmoream relinquis, et... Hein, il disait qu'il avait trouvé une latericam, une ville de briques, et qu'il la laissait marmoream, désormais en marbre. Alors ce marbre, c'est sans doute du plaquage. Vous ne faites pas un édifice, vous ne faites pas des murs porteurs avec le marbre. Mais c'est déjà bien que le mur soit plaqué en marbre. Voilà.
Merci beaucoup. Alexandre Grandadi, donc vous êtes l'auteur de Urbs, Histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste, publié chez Perrin. Thank you.